Les élèves du collège Centre montent au front. Chapitre 4, sommaire de cette émission Mémoire d'un rat des tranchées, les trêves de Noël, le vernissage de l'exposition Le regard de l'autre ont participé à cette quatrième édition Maëla, Sarah, Héloïse, Rachel et Steven.
Un extrait du livre de Pierre Chêne, Mémoire d'un rat, Talandier, Texto, 2008. Ce livre a pour héros un rat des tranchées, Ferdinand, apprivoisé par le soldat Juvenet. Voici un extrait, le chapitre 3, pages 55 à 59 du livre, qui décrit une scène de la vie en première ligne. Chapitre 3. L'alerte. Éclaircissement sur l'attaque du 2 mars et rectification au communiqué. Mon escapade eut pour conséquence de modifier la nature de mes relations avec mon maître. Je continue à l'appeler mon maître, bien que j'emploie ce terme, à présent, dans un tout autre sens qu'au début. Mais la langue française ne distingue pas de la brutale soumission d'un esclave la douce sujétion d'un disciple. Juvenet était devenu mon maître selon la même acception que le vieux rat auquel il avait succédé dans mon respect et dans mon amitié. Depuis que j'étais revenu librement dans Macania, j'étais réputé apprivoisé et Juvenet ne prenait plus le soin d'en fermer la porte que le soir, afin de me mettre à l'abri de toute agression nocturne. À l'appel de mon nom, je sortais de mon gourbi et je venais manger dans sa main les friandises dont il se privait pour moi. Ce soi-disant dressage n'accrut pas médiocrement la réputation de Juvenet. On venait de loin pour nous voir, et les satisfactions d'amour-propre que ma docilité procurait à mon professeur ne pouvaient qu'augmenter son attachement pour moi. C'est dans les moments de crise qu'on juge un homme. Sur les champs de bataille, les masques tombent et chacun montre son vrai visage. Cette épreuve ne manqua pas à notre amitié naissance. Voici dans quelles circonstances. C'était le soir même de la relève. À peine arrivé à la tranchée, Juvenet fut commandé de faction dans un trou d'obus où son escouade fournissait une sentinelle avancée. Bien que ce poste fût dit d'écoute, Juvenet écarquillait les yeux plus qu'il ne tentait l'oreille, car, depuis la guerre, la finesse de son ouïe laissait beaucoup à désirer, phénomène qu'il attribuait autant à l'humidité des tranchées qu'à l'explosion des obus. Je me souviens que ce soir-là, après avoir guetté quelque temps en silence, mon maître monologua tout haut comme il lui arrivait fréquemment quand nous étions seuls. Il me prenait ainsi pour confident des pensées intimes qu'il taisait par pudeur devant tous les autres. « 9 heures, disait-il, en consultant sa montre phosphorescente, orgueil de son poignet. Les petits vont se coucher. Ils font la prière, pour moi. Au bout d'un moment, il ajouta « Peut-être bien qu'elle m'écrit ma lettre en ce moment. » Et comme un mouvement que je fis avait attiré son attention, « Tiens, me promit-il, mon vieux Ferdinand, à ma prochaine permission, je t'emmènerai, ça les amusera. » Puis il ne dit plus rien parce qu'il pensait à sa permission. Tout à coup, notre attention fut attirée par des vapeurs qui couraient au ras du sol, poussées vers nous par le vent. C'était comme une nappe de brouillard opaque et laiteuse, mais dont le clair de lune ne permettait pas de distinguer la coloration. Déjà, les premières volutes qui grimpaient la pente ne paraissaient plus qu'à une centaine de mètres de nous. C'est alors que Juvenet montra qu'il joignait à la présence d'esprit la fidélité du cœur. De la main droite, il appliqua son masque, mais il n'oublia pas de me saisir de la main gauche et il m'emporta en criant « Les gaz, v'là les gaz !» Presque aussitôt, une fusée signale partit et le silence de la nuit fut brusquement déchiré par le tintamarre des avertisseurs. Cloche, gong, sirène, klaxon, buglés, tintaient, rugissaient à la fois. Les bûchers préparés s'allumèrent sur toute la ligne et Juvenet, pour me préserver, me posa si près de l'un d'eux que j'aurais infailliblement grillé s'il n'avait pris soin, sous prétexte de purifier l'air, de m'arroser continuellement avec la solution hyposulfatée d'un vaporisateur vert morel. Cependant, l'artillerie prévenue déclenchait ses tirs de barrage autant pour disperser la nappe gazeuse que pour prévenir toute tentative de l'ennemi. Dans le même but, tous les fusils et toutes les mitrailleuses crépitaient à la fois. À ce moment, le capitaine commandant le point d'appui souleva son masque pour vérifier l'âcreté de l'atmosphère et fut bien étonné de respirer l'air pur de la nuit. Il prolongea l'expérience et ne s'en trouva nullement incommodé, d'où il conclut que les vapeurs signalées n'étaient que le brouillard inoffensif qui se forme les soirs d'automne au creux des vallons. Juvenet mandait près de lui comme auteur de l'alerte du bien confessé qu'il n'avait pas entendu le sifflement caractéristique dont parlaient les consignes, mais il s'excusa en avouant qu'il avait mis cette lacune sur le compte de sa surdité. Le capitaine, dans sa fureur, ne lui ménagea pas les expressions les moins choisies ni les épithètes les plus dures, mais il était trop tard pour enrayer le mal. Les Boches, surpris, ne savaient à quoi attribuer cette imprévue démonstration, car les Alliés n'avaient à enregistrer ce soir-là aucune victoire sensationnelle et aucun neutre n'avait déclarer la guerre aux puissances centrales. Mais bientôt, pris de peur, ils commencèrent à riposter énergiquement. Pendant toute la nuit, ce fut une débauche de munitions qu'il n'était au pouvoir de personne d'arrêter. Le jour seul mit fin à l'excitation générale et rendit à chacun son sang-froid. Mal à l'aise n'était pas Juvenet, mais le capitaine commandant le point d'appui à qui la division demandait un rapport d'urgence par l'intermédiaire du brigadier, du colonel et du commandant. Le malheureux se doutait bien de la disgrâce que lui vaudrait en haut lieu d'avoir laissé se propager aussi inconsidérément une fausse alerte. Aussi prit-il le parti héroïque de rendre compte que l'ennemi avait tenté effectivement une attaque par les gaz, mais que grâce à la vigilance du soldat Juvenet, elle avait été jugulée dans l'œuf. Et afin d'ajouter à la vraisemblance, il joignit au rapport une proposition de citation pour le courageux guetteur. Cette affaire eut du moins un heureux résultat. Le danger dont il s'était cru un moment menacé décida Juvenet à sacrifier sa barbe qu'il avait conservée pieusement en dépit des risques qu'elle lui faisait courir. Le communiqué français relata d'un coup de main, tenté à l'aide de gaz nocifs, avait échoué en Lorraine, tandis que le communiqué allemand disait « En Lorraine, une attaque de nuit de grand style avait avorté sous le feu efficace de notre artillerie et de nos mitrailleuses. L'ennemi a subi des pertes sévères et a dû refluer dans ses tranchées de départ. Les Saxons qui nous étaient opposés ce soir-là seront bien aises de trouver ici la véritable explication de cette échauffourée à laquelle ils n'ont encore certainement rien compris. » Thank you.
Compte rendu des trêves de Noël à l'hiver 14. À l'hiver 1914, des trêves ont été courantes et souvent spontanées là où les troupes allemandes et britanniques ou françaises se faisaient face. Ces épisodes seront longtemps occultés pour ne pas entacher une histoire restée patriotique. Des cessations de tirs, d'hostilités ont eu lieu tout le temps du conflit, entraînant de nombreuses fraternisations, n'en déplaise aux chefs de guerre. Des cessez-le-feu étaient l'occasion d'enterrer les morts et de faire une cérémonie religieuse, de sortir des tranchées inondées par la pluie, de faire des matchs de foot improvisés et ce que l'histoire retiendra des trêves de Noël.
Le film de Christian Carion, Joyeux Noël, illustrera de façon émouvante cette célèbre trêve de Noël sur les terres du nord de la France. Les soldats du front étaient épuisés et choqués par l'étendue des pertes humaines subies depuis le début du conflit. Des Français et des Britanniques, au petit matin du 25 décembre, entendirent des chants de Noël venir des positions ennemies, puis découvrir des arbres de Noël placés le long des tranchées allemandes. Les soldats allemands et britanniques sortirent tous de leurs tranchées pour se retrouver sur le No Man's Land. Après tous ces mois de guerre, ils purent enfin se rencontrer. Ils se serrèrent la main, discutèrent, ils chantèrent, s'échangèrent des cadeaux qu'ils avaient reçus par leur famille, comme du chocolat, du tabac, des biscuits et des cigarettes. Un chanteur d'opéra chanta des chants de Noël.
Des lettres de poilus à leur famille décrivent cela. Par exemple, dans la lettre d'un caporal français adressée à ses parents, il relate une trêve de 4 jours où des échanges de cigarettes et de journaux avaient eu lieu pendant une période où aucun coup de fusil n'avait été tiré. Les corps avaient pu être enterrés et les Allemands avaient même soigné des blessés français sans les faire prisonniers. Des deux côtés, un fort sentiment de fraternité était né. Le soir du 24 décembre, musique, chants religieux, applaudissements ont agrémenté cette soirée de Noël peu ordinaire dans ce contexte de guerre.
Malgré la destruction des photos prises lors de ces événements, certaines ont pu faire les unes des journaux britanniques de l'époque. Mais aucun média allemand ou français n'ont relaté cette trêve. L'état-major a dispersé les troupes qui avaient fraternisé et fait déplacer les unités contaminées sur les zones de combat les plus dures. Je pense que la trêve du 25 décembre a été un jour très important de la guerre. Cette pause a été un grand moment de joie et de rire dans cette guerre atroce.
La trêve de Noël 1914, vue par un caporal français. Le 26 décembre 1914, mes chers parents. Encore 36 heures de tranchées de fête, mais celles-ci se sont passées dans des conditions particulières que je vais vous raconter. Nous étions cette fois à 25 mètres des tranchées allemandes, que nous distinguions très nettement. Ce que nous relevions nous dire, depuis 36 heures que nous sommes là, ils n'ont pas tiré un seul coup de fusil pour ne pas être ennuyés par une fusillade inutile. C'était censément un accord entre nous et eux. Dans la journée, j'avais entendu dire qu'ils nous avaient causé, échangé des journaux, des cigarettes même. Je ne voulais le croire tant que j'en aurais pas eu la preuve par moi-même. Au jour, je risque vivement un œil par-dessus la tranchée, enhardi par le calme qui régnait des deux côtés. Je recommence à regarder plus attentivement. À mon grand étonnement, j'aperçois un Bavarois sortir de sa tranchée, aller devant d'un des nôtres qui lui aussi avait quitté la sienne et échangé des journaux et une solide poignée de main. Le fait se renouvela plusieurs fois dans le courant du jour. Un Alsacien qui se trouvait près de nous échangea avec eux une courte conversation par laquelle les Bavarois lui apprirent qu'ils ne voulaient plus tirer un coup de fusil, qu'ils étaient toujours en première ligne et qu'ils en avaient assez. Ils nous ont prévenus qu'ils seraient bientôt relevés par les Prussiens et qu'alors il faudrait faire bien attention, mais qu'avec eux, il n'y avait rien à craindre. En effet, ça fait 4 jours qu'à 25 mètres, l'un de l'autre, Il ne s'est pas échangé un seul coup de fusil. Nous étions amis, des deux côtés, bien sincères. Et quand notre artillerie tirait sur les lignes, nous étions ennuyés pour eux. Et s'ils avaient fallu aller à l'assaut de leurs tranchées, je ne sais pas ce qui se serait passé. Dans la dernière attaque que nous avions faite, une vingtaine de nos morts sont restés à quelques pas de leurs tranchées. Très poliment, un officier nous invita à aller les chercher et que nous pouvions être certains. Nous avons refusé. Ils ont soigné nos blessés sans les faire prisonniers. L'un d'eux fut soigné pendant 5 jours. Vers le soir, c'était le 24. Un Bavarois remit une lettre que notre capitaine conserve précieusement. Elle était conçue ainsi, autant que je m'en rappelle. « Chers camarades, c'est demain Noël. Nous voulons la paix. Vous n'êtes pas nos ennemis. Ils sont de l'autre côté. Nous admirons la grande nation française. Vive la France, bien des salutations. Signé les Bavarois, dits barbares. »
Juge, la nuit vient interrompre nos échanges amicaux et minuit approche. Tout à coup, tout près de nous, on entend chanter au son de flûte et d'un harmonium. C'était les Bavarois qui fêtaient Noël. Quelle impression ! D'un côté, des chants religieux, de l'autre, la fusillade. Et tout ça sous un beau clair de lune en plein champ, tout recouvert de neige. Quand ils eurent fini, nous poussâmes des « Hurrah ! Hurrah ! » À notre tour, le capitaine, le premier, nous entonnâmes d'une seule voix, minuit chrétien, puis « Il est né le divin enfant ». Ils nous écoutèrent, puis eux poussèrent des applaudissements et des bravos. Enfin, trois qui savaient très bien l'allemand chantèrent deux cantiques en chœur avec les Bavarois. On m'aurait raconté cela, je ne l'aurais pas cru, mais les faits sont là et ils se produisent un peu partout, mais malheureusement ne serviront à rien. Cette lettre vous parviendra peut-être l'année prochaine. Dans cette circonstance, je m'empresse de vous offrir mes meilleurs vœux pour 1915. J'espère que cette année reconstituera tout ce que 1914 a détruit. Bonheur, foyer et espérance, et qu'elle apporte la paix, le travail et la récompense tant méritées par les sacrifices que cette guerre nous a forcés à faire. J'aurais voulu vous écrire hier, mais nous avons été obligés d'aller nous réfugier dans la cave à cause des percutants qui tombaient dans Villers-aux-Bois, petit pays où nous nous reposons, avant d'aller aux tranchées. Merci encore de toutes vos bontés. Recevez, mes chers parents, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour la nouvelle année et mes plus sincères baisers. Votre fils, qui vous aime. Lettre de Marcel de Caubert à ses parents.
Le 30 janvier 2015, à 17h, a eu lieu le vernissage de l'exposition « Le regard de l'autre » au musée Muséum départemental. À cette occasion, nous avons eu l'opportunité d'interroger certains des intervenants, dont Pierre Spitalier, Cyril Frappoli, Christian Baquet, enseignant au Collège Centre, Thorsten Isse et Frédéric Verlinden.
C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston. L'un aimait les tomis, l'autre aimait les teutons.
chacun pour ses amis, tous les deux ils sont morts. Moi qui n'aimais personne, eh bien je vis encore. Maintenant, cher tonton, que les temps ont coulé, que vos veuves de guerre ont enfin convolé, que l'on a requinqué dans le ciel de Verdun les étoiles ternies du maréchal Pétain. Maintenant que vos controverses se sont tues, qu'on s'est bien partagé les cordes des pendus, maintenant que John Bull nous boude, maintenant que ça n'est fini des querelles d'Allemands, que vos filles et vos fils vont la main dans la main faire l'amour ensemble et l'Europe de demain, qu'ils se soucient de vos batailles presque autant que l'on se souciait des guerres de cent ans. On peut vous l'avouer maintenant, cher tonton, vous l'ami des Tommy, vous l'ami des Teutons, que de vos vérités, vos contre-vérités, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. De vos épurations, vos collaborations, vos abominations et vos désolations, de vos plats de choucroute et vos tasses de thé, tout le monde s'en fiche à l'unanimité. En dépit de ces souvenirs qu'on commémore, des flammes qu'on ranime aux monuments aux morts, des vainqueurs, des vaincus, des autres et de vous, révérence, parlez, tout le monde s'en fout. La vie, comme dit l'autre, a repris tous ses droits. Elles ne font plus beaucoup d'ombre, vaut de croix. Et petit à petit, vous voilà devenus l'art de triomphe en moins des soldats inconnus. Maintenant, j'en suis sûr, cher malheureux tonton, vous l'ami des Tommy, vous l'ami des Teutons. Si vous aviez vécu, si vous étiez ici, c'est vous qui chanteriez la chanson que voici. Chanteriez en trinquant ensemble à vos santé, qu'il est fou de perdre la vie pour des idées comme ça qui viennent et qui font trois petits tours, trois petits morts et puis s'en vont. Qu'aucune idée sur terre est digne d'un trépas, qu'il faut laisser ce rôle à ceux qui n'en ont pas. Que prendre sur le champ l'ennemi comme il vient, c'est de la bouille pour les chats et pour les chiens. Qu'au lieu de mettre en joue quelques vagues ennemis, mieux vaut attendre un peu qu'on le change en ami. Mieux vaut tourner cette fois sa crosse dans la main, mieux vaut toujours remettre une salve à deux mains. Que les seuls généraux qu'on doit suivre au talon, ce sont les généraux des petits soldats de plomb. Ainsi chanteriez-vous tous les deux en suivant Malbrou qui va en guerre au pays des enfants. Ô vous qui prenez aujourd'hui la clé des cieux, vous les heureux coquins qui ce soir verrez Dieu, quand vous rencontrerez mes deux oncles là-bas, offrez-leur de ma part, c'est ne m'oubliez pas, ces deux myosotis fleuris dans mon jardin, un petit forget-me-not pour mon oncle Martin, un petit Fergist-Meinisch pour mon oncle Gaston, pauvre ami des Tommy, pauvre ami des Teutons.
Nous sommes avec Thorsten, donc, qui a organisé l'exposition. D'où vous est venue cette idée ?
Dans l'année 2011, dans notre musée, on nous a offert une collection des caricatures et des dessins françaises et je voulais bien les avoir. J'ai demandé de l'argent à une donation qui s'appelle Ernst von Siemens Kunststiftung et ils m'ont donné de l'argent. J'avais l'idée qu'il faut faire une exposition éducative avec cette collection. Et donc j'ai décidé de chercher des écoles en France et en Allemagne qui voulaient travailler ensemble avec nous. C'était le début.
Vous avez travaillé avec M. Spitalier, mais est-ce que vous avez travaillé avec d'autres professeurs en France ?
Oui, j'ai rencontré Pierre à Crane en 2012 dans une colloque sur la Première Guerre mondiale. Et c'était le début de la coopération avec des écoles. Et après, on a cherché d'autres écoles, d'autres élèves qui voulaient travailler ensemble avec nous, interpréter des objets. Et maintenant, nous avons, à la fin, on a eu 100 élèves et étudiants qui ont travaillé ensemble avec nous. Ils viennent de Beauvais, de Decize, de Gap, bien entendu, Weimar en Allemagne et d'Osnabrück.
L'exposition a été en Allemagne, à Osnabrück, mais est-ce qu'elle a été dans d'autres villes ?
Ça a commencé à Osnabrück, maintenant c'est Gap. Après, nous allons faire, nous essayons de que Beauvais entre aussi dans cet voyage, dans cet itinéraire de l'exposition. Nous avons des demandes de Bruxelles, Belgrade, en Yougoslavie, autrefois en Yougoslavie, maintenant Serbie. Dans le Baltique, il y a des intéressés, des écoles qui veulent coopérer avec nous. Il faut voir comment on peut faire ça parce qu'il faut toujours un peu de l'argent pour arranger cet itinéraire. Il y a des frais, des coûts. J'ai grande confiance que cette exposition va durer encore jusqu'à 2018. Et après, il va rentrer à Osnabrück.
Vous avez organisé l'exposition et vous avez rassemblé les caricatures pour le musée. Et parmi ces caricatures, laquelle vous avez préférée ?
Vous savez, nous avons des caricatures françaises et allemandes. Et ce que je préfère, ce sont les couples. On a toujours deux perspectives, deux objets dans un cadre. Une perspective française et une perspective allemande. Et moi, j'aime beaucoup les femmes en guerre. Parce que là, on peut voir comment les caractères, les rôles de sexe ont été différents en France et en Allemagne. Comment ils sont interprétés. Parce que la femme allemande qu'on peut voir dans une carte postale là-bas, c'est une femme qui est très émotionnelle, qui est une sorte de mère et qui s'occupe des blessés, des soldats blessés, mais qui est aussi une femme très patriotique. Elle tient un drapeau, le drapeau allemand, et il donne des boissons aux soldats. Et c'est une narration, une interprétation des femmes allemandes qui veut dire que les femmes allemandes, ce sont des femmes patriotiques dans la guerre, mais une femme très droite. La feuille français, là vous avez une femme française qui est aussi très émotionnelle, mais qui est plein d'horreur et de... Oh, je veux faire quelque chose. Les Allemands, ils arrivent, mais nous, les Français, il faut arrêter les Allemands. Et là, on voit que dans cette interprétation artistique de la femme, on voit l'idée de la révolution. Alors, c'est la femme qui se lève, c'est le peuple qui se lève pour arrêter les Allemands. Alors, là-dedans, dans cette interprétation, dans ce dessin, on voit... que les Français, à cause de leur histoire différente, la Révolution, ils interprètent la femme dans un autre rôle. C'est une femme qui est aussi une mère, elle donne de la sécurité aux enfants, mais c'est une femme qui est comme ça. Je m'en vais. Et la femme allemande, c'était comme une déesse. C'est plus glorieux.
Monsieur Spitalier est très passionné par la Première Guerre mondiale. Est-ce qu'il en est de même pour vous ?
Moi, je suis inspiré par l'histoire, par apprendre par l'histoire. Je m'occupe de l'histoire du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une certaine époque, mais c'est s'occuper des images. Comme je travaille dans un musée, je travaille beaucoup avec des objets et des images. Et je veux interpréter ce que l'époque a inscrit dans ces images-là. Je veux apprendre ce que... cette époque, ces images de cette époque nous apprend encore aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Nous sommes avec Madame Frédérique Verlinden, donc, qui est la conservatrice du musée. Qu'est-ce qui vous a plu dans l'idée de Thurston et de Monsieur Spitalier, cette exposition? Pourquoi avoir accepté?
D'abord parce que ce n'est pas une exposition clé en main. Elle nous a permis de sortir des documents d'archives et elle venait s'inscrire en complément d'une exposition qui est installée au sous-sol du musée. Et donc ça donne une espèce de verticalité dans le parcours de visite. Et donc le visiteur qui va au sous-sol, quand il sort du sous-sol, a envie d'aller au dernier étage pour se poser des questions d'avenir à partir de 14-18. Et cette exposition montre autre chose que du souvenir. Elle est recentrée, je dirais, sur ce qu'apporte le dessin. Et ce que dit le dessin, ce que disent les textes, qui disent des choses très différentes de ce que peut dire un film ou ce que peut dire un objet souvenir.
Vous avez dû voir les caricatures qui sont exposées. Parmi toutes celles que vous avez vues ou retenues, laquelle vous avez préférée ?
Je n'ai pas de préférence, alors là je ne vais pas botter en touche comme ça. Disons qu'on a fait le choix de mettre une première image sur la culture dans le début du parcours, parce qu'elle pose des questions très contemporaines.
Monsieur Baquet, vous êtes professeur d'art plastique au Collège Centre et vous avez réalisé deux peintures en rapport avec la Grande Guerre, donc une représentant une tranchée allemande et une autre française. Quel message vous vouliez faire passer en faisant ces deux peintures ?
Il faut savoir que c'est des dessins qui avaient été prévus, qui ont été conçus pour une exposition qui s'est passée à Romolon cet été et où on me demandait d'illustrer le quotidien dans les tranchées, qui moi me posait problème au départ. Ça abordait une question dont on parle peut-être pas assez, c'est le quotidien dans les tranchées. Moi, j'avais notamment une en tête, ce que je travaille avec les élèves, la réalité de ces combats, de sa grande cruauté, etc. Après, il y a une autre dimension qui de toute façon, m'a intéressé après coup là-dessus à étudier, c'est qu'il y a quand même cette chose qui m'a toujours surpris, c'est qu'on puisse accepter pendant 4 ans de rester dans des tranchées. Donc moi, je suis originaire de la Somme. J'ai passé ma jeunesse à peu près 20 km des tranchées de la bataille de la Somme. Et quand on sait ce que c'est que d'avoir les pieds dans la boue l'hiver, là en l'occurrence avec l'eau, les rats, etc., on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il fallait avoir en tête pour pouvoir accepter ça, parce qu'il a fallu quand même attendre 1917 pour qu'il y ait des débuts de révolte. Et c'est là où ça rejoint le vrai propos de l'exposition, qui est les caricatures, tout ça, comment on pouvait voir l'allemand à cette époque-là. Ce que moi j'aime montrer aux élèves, c'est l'aspect de qu'est-ce que c'est qu'une caricature. Donc les travaux que j'ai faits, moi non, ne sont pas du tout une caricature, mais pour accepter ça, il y a quand même cette idée qu'il fallait vraiment une colère profonde, voire une haine de l'autre, pour accepter d'attendre des jours entiers pour après aller à la boucherie, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. De toute façon, les lettres que vous avez pu lire avant l'exposition nous montrent bien dans quelle folie il fallait être pour accepter d'avoir ce spectacle de corps en déliquescence pendant des semaines, des blessés agonisants qui peuvent hurler longtemps. Ben, finalement, ces dessins, ils viennent s'intégrer dans l'exposition, mais ils prennent du sens quand on essaye de voir ces deux aspects de la guerre, le quotidien difficile, et quand on imagine un petit peu derrière la France rurale, les femmes au champ qui doivent remplacer les hommes et attendre, sachant que malgré tout, en plus, il y a peu de chances pour qu'ils reviennent.
Est-ce que vous avez vu les caricatures qui sont exposées ici ?
Oui, j'ai commencé à voir là, parce que bon, jusqu'alors, quand j'étais venu au musée, c'était en pleine installation, donc la plupart, je ne les avais pas encore vues.
Et parmi celles que vous avez vues, parce que vous n'avez pas tout vu du coup, laquelle vous avez préférée ?
Celle qui me paraît, moi, intéressante à parler ici, c'est pas forcément la meilleure sur le plan graphique, mais c'est comme, c'est celle où on a la victime, parce qu'on a une femme, on peut supposer qu'elle a été violée, même si c'est pas clair. En tout cas, elle est probablement décédée. Et ça aborde une des questions importantes de cette guerre, c'est qui sont les victimes ? Les femmes, les enfants dans le Nord étaient touchés, leurs fermes ont été ravagées. Moi, j'étais à côté de villages qui ont été détruits à plus de 95%. Donc, entre 95 et 100%, on peut imaginer ce que les gens retrouvaient par la suite. Sachant de toute façon qu'aujourd'hui, tous les ans, quand les paysans labourent, ils retournent des obus, cette guerre-là, ils vont la vivre encore longtemps. L'autre aspect aussi, moi je sais en tant qu'enseignant, quand on en parle, c'est cette question de guerre totale, et quand on montre comment par le fanatisme les Japonais ont pu mettre ça en place, voire même les Allemands, je trouve que ce type de caricature nous interpelle déjà là-dessus.
Quelle caricature vous avez préférée dans l'exposition ?
Eh bien celle qui se trouve derrière nous, qui représente un petit garçon avec son chien devant sa maison qui a visiblement été détruite. Donc c'est adressé aux petits réfugiés. Il est indiqué « Là fut notre maison ». Et on voit toute cette tristesse qui ressort du regard de cet enfant et de celui de son chien qui regarde les ruines encore fumantes de leur habitation. Voilà, c'est particulièrement émouvant. Les élèves ont travaillé dessus sur une version informatique, en petit format donc, et là on la voit, c'est surprenant parce qu'ils ne se l'imaginaient pas aussi grande, et l'effet est d'autant plus important.
Merci. Monsieur Spitalier, qu'est-ce qui vous a plu dans l'idée de Thorsten ?
Alors l'idée de permettre à des élèves français et allemands de travailler ensemble au-delà des frontières, hein, en traversant les frontières, déjà ça me plaisait beaucoup. En plus, travailler sur la Grande Guerre, qui est mon sujet de prédilection, ça aussi c'était absolument intéressant. Et l'idée finale aussi, hein, c'est-à-dire de rapprocher les élèves des deux pays et de mettre fin à cette succession de guerres, bon, c'est déjà le cas, hein, mais de renforcer l'union entre les deux pays me semblait vraiment pertinente. Voilà un peu les éléments qui m'ont incité à travailler avec Thorsten. À partir de là, donc, c'était très facile par Internet de faire ce travail et tout de suite, on a pu commencer à travailler ensemble.
Donc vous dites que vous aimez beaucoup la Première Guerre mondiale, mais pourquoi ?
Alors, c'est assez compliqué et ça prend beaucoup de temps de l'expliquer. Je suis complètement interloqué par la guerre. J'arrive pas à comprendre pourquoi les hommes se font la guerre. Et la guerre de 14 est une guerre très particulière, très spécifique, sur laquelle j'ai commencé à lire il y a une quinzaine d'années. Et là, maintenant, je lis pratiquement que des livres là-dessus. Plus j'en sais et plus je me rends compte que je sais pas grand-chose. Et donc, j'ai besoin d'apprendre encore plus, de comprendre. Ça me permet aussi de diffuser l'information auprès des élèves ou du public, comme ici dans le musée. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça me permet aussi c'est un développement personnel, hein, c'est un intérêt personnel. Et donc, tout cela fait que j'ai envie d'en savoir encore plus sur le sujet. C'est une période vraiment fascinante, une guerre qui semble complètement absurde. On ne sait pas pourquoi ils ont fait cette guerre, et pourtant ils l'ont faite. Il y a eu plus de 10 millions de morts. C'est ce type d'interrogation que j'ai.
Donc, vous avez proposé des caricatures aux élèves et que vous avez exposées au musée, mais elles viennent d'où ces caricatures ?
Alors, ces caricatures sont constituées de deux corpus. Le premier, c'est un Allemand qui vivait à Paris dans les années 60 et qui les a achetées. Il a constitué une collection et lors de son décès, l'héritage, le fils a décidé de s'en séparer et il les a vendues, il les a proposées au musée d'Osnabrück qui les a achetées en fait par le biais d'une fondation privée. Et cette fondation prête les caricatures de façon permanente au musée. Et l'autre corpus, ce sont des caricatures cette fois faites du côté allemand ou des affiches ou des cartes postales. Et ces documents ont été achetés dernièrement par le musée d'Osnabrück dans le but d'équilibrer le propos et qu'on ait à la fois le propos de l'entente, donc de la France, mais aussi le propos de l'alliance avec l'Allemagne ou l'Autriche.
Pourquoi vous avez proposé ces caricatures aux élèves ?
On fait travailler les élèves de façon extrêmement classique, on leur fait apprendre des choses, on les fait travailler sur des documents. Mais là, l'idée, c'était de laisser un maximum de liberté aux élèves. C'est-à-dire qu'on présente, on leur dit, voilà, vous avez un corpus de caricatures, vous en choisissez une et vous avez deux questions très simples. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous identifiez ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, c'est laisser un maximum de liberté pour que les élèves puissent se rendre compte que ce qui se passait pendant la Grande Guerre, comment les adultes se parlaient d'eux-mêmes, comment ils parlaient entre eux. Et c'est ça, l'intérêt de ce travail. Et c'est toute la richesse du projet de Thorsten, c'est de permettre aux élèves d'aujourd'hui, qui vivent dans deux pays qui sont totalement pacifiés, qui sont très proches l'un de l'autre, la France et l'Allemagne, eh bien, de prendre du recul par rapport à ces documents et de les critiquer, de les commenter. Voilà, ça c'était vraiment essentiel.
Parmi ces caricatures, laquelle vous avez préférée ?
La plus forte, c'est cet enfant. Certains disent que c'est un garçon, d'autres disent que c'est une fille, parce que les garçons étaient souvent habillés en filles à cette époque, donc les deux versions sont possibles. Cet enfant, donc, qui est dans un village visiblement en ruine, avec une maison totalement ruinée, il est accompagné de son chien, il est très malheureux devant ça. Et voilà, ça c'est un élément c'est la caricature qui m'a le plus marqué, voilà, qui m'a le plus touché.
Thank you.